Science en question par Étienne Klein. Aujourd'hui, peut-on penser l'incommensurable ? Les mathématiciens grecs de l'Antiquité ont cru que tous les nombres étaient rationnels. Et ils ont même désiré qu'ils le fussent. Qu'est-ce à dire ? Que tous les nombres devaient, selon eux, pouvoir s'écrire comme le rapport de deux nombres entiers, autrement dit comme des fractions, tels un tiers, deux cinquièmes ou sept huitièmes. Ils basèrent sur cette hypothèse, qui était en réalité une conviction, la première ébauche de leur raisonnement géométrique. Par extension, c'est aussi sur cette hypothèse qu'ils fondèrent l'idée même de rationalité. Le mot « ratio » qui désigne le rapport entre deux nombres et le mot « rationalité » ont en effet une seule et même source. Et ces deux mots expriment de la façon la plus pure l'idée d'harmonie. Mais les Grecs ne tardèrent pas à comprendre qu'ils s'étaient trompés. Il existe aussi de l'incommensurable dans le monde des nombres. Par exemple, la racine carrée de 2 est incommensurable avec l'unité. Pour le dire autrement, la racine carrée de 2 n'est pas une fraction. Elle est un nombre différent de tous ceux qui peuvent s'écrire comme le rapport de deux nombres entiers. Cela a comme conséquence que le côté d'un carré et sa diagonale sont également incommensurables. La même chose vaut pour la circonférence et le diamètre d'un cercle, dont le rapport vaut le nombre pi, qui lui non plus ne peut jamais s'écrire comme la division d'un nombre entier par un autre. De tels nombres sont dits irrationnels. Ils ont l'énervante propriété de pouvoir être approchés aussi près que l'on veut par des nombres rationnels, de pouvoir être presque touchés par eux, mais sans jamais pouvoir coïncider avec l'un d'entre eux. En d'autres termes, les nombres irrationnels sont sans commune mesure avec les nombres rationnels. Cette découverte scandalisa les Grecs, car à leurs yeux, c'est la rationalité elle-même qu'elle venait mettre en déroute. Dès lors, à Science en question, nous voudrions reposer deux questions qui avaient tant tourmenté les Grecs. 1. L'incommensurable est-il pensable ? 2. Y a-t-il de l'incommensurable ailleurs que dans l'univers mathématique ? Et pour répondre à ces questions difficiles, j'ai invité François Julien, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et sinologue et vous publiez ces jours-ci deux livres, l'un qui s'appelle « L'incommensurable » et l'autre, dont nous parlerons un peu moins, qui s'intitule « Moïse ou la Chine ». Alors ma première question, François Julien, concerne justement ces fameux nombres irrationnels qui se distinguent radicalement des nombres rationnels, comme je l'ai expliqué. Est-ce que de façon semblable, il y a quelque chose qui distingue les êtres humains des autres êtres vivants ?
Disons que l'être humain, je ne sais pas si je me maintiendrai ce terme, mais disons, ce qui s'est ouvert d'humain dans l'histoire a ouvert en même temps de l'incommensurable. Je veux dire qu'il y a le monde, par principe, est commensurable. Mais l'aventure humaine s'ouvrant dans le monde, donc des coïncidents de la nature, des coïncidents des autres êtres, a du même coup fait émerger une fêlure, une rupture de commensurabilité, ce qui fait que, vous l'avez bien dit, l'incommensurable, c'est quand ça ne se touche plus, qu'on peut approcher autant qu'on veut, mais qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas coïncider. Alors, il me semble que l'événement de l'émergence de l'homme dans le monde a produit cet effet. Donc, il y a une fêlure qui est advenue par le déploiement de l'humain et une incommune mesure est apparue. C'est ce qui fait que, il me semble que l'incommensurable est à penser parce que ce concept peut éclairer notre expérience.
Vous dites dans votre livre, François Julien, vous dites « le vivant s'est fêlé dans l'homme ».
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a une sorte de bifurcation, de transition, de saut ?
Fêlure d'abord parce que quelque chose, une inadéquation est advenue. Je veux dire, le monde est dans son adéquation, dans sa coïncidence, repose en soi. Mais l'événement de l'émergence de l'homme fait que l'homme a ouvert une inadéquation dans le monde. Une inadéquation que dit bien, à mon sens, l'incommensurabilité, à savoir que tout n'est plus bord à bord, et qu'il y a donc une fêlure qui s'est ouverte, et une fêlure qui est infinie, comme le nombre pi, c'est infini. Donc ça amène à penser un autre infini que l'infini qu'on a conçu de façon classique, l'infiniment grand ou l'infiniment petit, comme chez Pascal. Non, c'est un infini interne, de fêlure. Et c'est ça qui me paraît important à penser pour comprendre notre expérience et pour comprendre ce que signifie notre existence, qui n'est pas seulement le fait de vivre comme sont tous les vivants, mais de se tenir hors, de exister, d'émerger au fond ce qui est ma préoccupation en essayant d'exploiter philosophiquement ce concept d'incommensurable qui, bien sûr, est d'abord des mathématiques. Ça qui m'intéresse, c'est que les mathématiques nous le mettent en main. Donc on n'est pas dans une sorte de rêverie ou d'idéalité facile. Il y a quelque chose que nous font rencontrer les mathématiques, à quoi on se heurte, comme se sont heurtés, vous l'avez bien dit, les premiers Grecs, et qui est cette fêlure interne à l'expérience humaine qui permet à l'homme d'exister.
Mais est-ce que je me trompe, ou est-ce que je trahis votre pensée, si je dis que, selon vous, finalement, l'homme est la seule espèce vivante capable de penser l'incommensurable, les autres animaux ne le faisant pas?
C'est-à-dire que je pense que l'homme est le seul être qui est promu de l'incommensurable, qui est ouvert de l'incommensurable, du fait de cette fêlure qu'il a, disons, qui est advenue par des coïncidences avec la nature et qui a permis la promotion de l'humain. C'est ça qui me paraît essentiel. Donc effectivement, quand on dit « seul l'homme existe », c'est pas, eh bien je dirais « seul l'homme fait expérience de l'incommensurable » ou « seul l'homme a ouvert de l'incommensurable ».
Alors vous avez mis en association à l'instant l'idée de irrationnel, nombre irrationnel et l'idée d'infini. En fait, l'infini aussi a produit dans l'histoire des mathématiques des chocs du même style que celui qu'on a évoqué à propos des Grecs. Je pense notamment à Georges Cantor, un mathématicien du 19e siècle, qui s'est posé une question toute simple. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a plus de points dans un carré que dans le côté d'un carré? Et il a montré que non, il y a exactement le même nombre de points dans la surface que sur le côté. Et ça l'a tellement choqué qu'il a écrit à l'un de ses collègues, Richard Dedekind, une lettre datée du 29 juin 1877, dans laquelle il rend compte de son désarroi par ces mots « Je le vois, je vois le résultat », un peu comme les Grecs avaient vu qu'il existe des nombres irrationnels, « Je le vois, mais je ne le crois pas ». Autrement dit, ce résultat mathématique était incommensurable avec ce que son esprit était capable de penser.
Alors, je crois qu'on peut rapporter cela à l'expérience. La phrase que vous venez de citer, « je le vois, mais je ne le crois pas », on la trouve directement dans Proust, à propos de quand le narrateur reçoit une lettre de Gilberte. Il l'a sous les yeux, il la voit, et il n'y croit pas. Donc, je crois que c'est l'expérience qui est essentielle pour la pensée, puisqu'au fond, on a une idée un peu simple qu'a véhiculé la philosophie, surtout la philosophie classique, qui est que les hommes désiraient naturellement penser. Qu'il y aurait une sorte de fusée, comme disent les Grecs. C'est par nature que nous pensons. Je pense que nous pensons quand nous nous heurtons. Et effectivement, si les Grecs se sont heurtés à l'incommensurable, si ça a été si violent pour eux, parce qu'ils pensaient que les nombres étaient commensurables, etc., que ça a fondé la rationalité non seulement des nombres, mais du monde, de découvrir l'incommensurable de façon indubitable, c'est-à-dire que c'est dans l'opératoire qu'on voit qu'il y a quelque chose qui se fissure, eh bien je crois que ça c'est très important à penser, à tirer comme un fil pour penser, parce que là il y a quelque chose qui nous met in media stress, au milieu de la difficulté. On ne peut pas jouer avec ça, on ne peut pas simuler l'incommensurable, on ne peut pas jouer avec, on est mis devant cette chose qui nous scandalise, comme ça a scandalisé les Grecs, quand ils ont découvert le fameux Hippas de Métaponte, tout ce qu'on dit de lui, et qu'il aurait subi parce qu'il avait pointé cette affaire-là, inadmissible, scandaleuse. Et donc je crois qu'il faut quand même penser qu'au début de la métaphysique d'Aristote, la première page, quand on dit que philosopher c'est s'étonner, qu'est-ce que donne Aristote comme exemple? D'une part les marionnettes qu'on voit bouger sans qu'on voit les gens qui les manient, d'autre part l'incommensurable. Donc il y a bien une expérience là qui, disons, dans la surprise qu'elle provoque, l'irrationalité qu'elle fait apparaître donne à penser. Et il me semble que l'intérêt du concept d'incommensurable, c'est qu'il se découvre dans les mathématiques, mais qu'ensuite il peut servir à explorer l'expérience et donc à rendre compte de cette fêlure qu'on repère entre les nombres et qui n'est pas une autre mesure, qui est le fait qu'il n'y a pas de commune mesure. Parce que l'immense, ce qui est sans mesure, ou disons le fait qu'il y ait d'autres mesures, comme le voudrait l'idéalisme de la métaphysique, ça ne gêne pas. On fait un autre monde. Non, l'incommensurable, il est bien dans le monde.
Est-ce qu'on peut donner des exemples concrets de moments ou d'instants dans l'existence où l'incommensurable surgit.
Je crois qu'il surgit et au point que on ne peut que le constater. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est du constat. C'est pas de la pensée au départ. C'est pas de la supputation ou non. Il y a de l'incommensurable. Comme il y en a entre les nombres, je dirais qu'il y a de l'incommensurable. Je vais te donner quelques exemples. Par exemple, entre le plaisir et la jouissance. Si on prend le dictionnaire, on nous dit que la jouissance, c'est la plénitude du plaisir. Donc, entre plaisir et jouissance, il y aurait continuité, il y aurait commensurabilité. Or, dès lors qu'on fait l'expérience de l'un et de l'autre, on voit bien comment il y a fêlure infinie de l'un à l'autre, puisque le plaisir est dans la satisfaction, et la jouissance, dans l'au-delà du plaisir, fait apparaître toute autre chose qui n'est plus, disons, bord à bord avec le plaisir. C'est la jouissance. La jouissance qui règne avec souffrance. La jouissance, c'est tout autre chose, s'ouvre avec la jouissance tout autre chose que ce que disait le plaisir, la satisfaction, comme l'a conçu Aristote. Et on voit bien que c'est ce qui apparaît, par exemple, chez Freud, quand il pense à la logique du plaisir, et puis qu'il se heurte à la question de la jouissance. Et donc, au fait qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas satisfaisant dans la satisfaction sexuelle.
Donc ça veut dire que la jouissance est incommensurable.
Elle ouvre l'incommensurable avec le plaisir.
Vous dites d'ailleurs, le plaisir demeure serein sous la commune mesure et s'en contente.
Oui, s'en contente.
Il est rhabillé pour l'hiver, là.
On sait bien que l'expérience du plaisir et celle de la jouissance, justement, ne sont pas contiguës. Elles ne sont pas bord à bord. Et la jouissance fait basculer dans autre chose. Il y a un effet de vertige de la jouissance. Parce que l'incommensurable, c'est ça, la fêlure d'infini de l'incommensurable, elle ouvre ce vertige. Bon, je prends un autre exemple. La mort. Alors, la mort, non pas vue sur le mode, disons, naturaliste, tout à fait compréhensible, la cohérence de la mort dans le gros métabolisme du vivant, mais la mort comme événement. Non pas la mort, donc, s'intégrant au processuel, mais la mort comme événement, eh bien, ouvre une fêlure d'infini. Quand on entend quelqu'un, moi c'était arrivé il n'y a pas si longtemps, au téléphone, on parle de quelqu'un qui s'est suicidé. Bah, on voit bien comment... cette annonce est sans commune mesure avec ce qu'on a dit précédemment et ce que je vais dire moi-même après. Il y a une fêlure d'infini que le discours, notre parole, va essayer de résorber, va essayer de rabattre, on va essayer de remettre bord à bord, on va essayer de recoller ce que cette fêlure d'infini néanmoins a ouverte. Et je crois que, je prends l'exemple tout simple, quand on sort du cimetière, on a enterré quelqu'un, cet effort que nous faisons pour recommencer à dire quelque chose, rabattre dans le quotidien, dans le social. Il y a bien quelque chose qui est dans ce rabattement, eh bien la reconnaissance implicite de ce que il y a eu cette fêlure qui n'en finit pas, et que nous essayons ensuite, donc c'était plus bord à bord, et après nous essayons de recoller.
C'est comme un nombre irrationnel qui ne peut pas être approché.
Qu'on peut approcher autant qu'on peut,
mais jamais le toucher.
Qui touchera pas.
Donc toutes les paroles, celles des obsèques ou d'après les obsèques,
ne coïncideront pas.
Ne coïncident pas.
Bien sûr, on essaie de faire qu'elle comble au maximum le trou, la fissure, la béance. Simplement, ça ne touchera jamais. C'est comme, vous savez, dans la peinture de la création de Michel-Ange, le doigt de Dieu et le doigt de l'homme, n'est-ce pas ? Il y a un infini qui passe, discret. Mais alors, je crois que là, quelque chose qui est important parce que. Ça nous fait envisager l'expérience. Moi, c'est ce que j'essaie de réfléchir, c'est comment traiter l'expérience sans la dépasser et sans la rabattre. La dépasser, ça sera l'idéalisme de la métaphysique, sans la rabattre, sinon ça sera l'empirisme. Donc comment penser à l'expérience dans son déploiement même? Et il me semble qu'on ne peut pas penser à l'expérience sans donner son importance à ces fêlures d'infini qui, disons, sont à l'origine même de son déploiement possible.
Et quand on ferme les yeux d'un mort, qu'est-ce qu'on fait ? On rabat quelque chose qui est incommensurable ?
Oui, je crois qu'on rabat quelque chose qui est l'incommensurable du regard. Je pense que nous ne cessons d'être les uns avec les autres, mais on sait bien que quand on regarde quelqu'un, on regarde son regard un instant, mais très court, parce que le regard n'est pas commensurable avec les yeux, le visage, la chair, etc. C'est une chose que nous faisons tous, tout le temps, à savoir... Nous rabattons les yeux, nous les clignons. Ce clignement d'œil, c'est quoi ? C'est qu'on ne peut pas regarder quelqu'un dans les yeux pendant plus de deux ou trois minutes sans être insolent ou, disons,
L'autre va dire, mais qu'est-ce que tu...
Collant.
Collant, oui. Donc, je crois que c'est pas seulement le visage comme porteur d'infini, comme a dit Lévinas, mais le regard, les yeux de l'autre font émerger de l'incommensurable. C'est-à-dire quelque chose qui est sans commune mesure, qui n'est pas bord à bord avec la chair du visage, l'air de la personne et la pièce qui l'entoure.
Alors, qu'est-ce qu'on fait pour rabattre cet incommensurable? On cesse de regarder?
On sait très bien qu'on dévie le regard. Si je vous regarde comme ça, je vais déveiller le regard au bout de 30 secondes. Donc c'est bien qu'on évite. Et je pense que l'émergence d'incommensurable provoque chez nous deux attitudes. L'une d'évitement, l'autre de rabattement. Et notre rapport à l'autre, en général, l'autre, c'est-à-dire l'autre en tant qu'homme, hein, n'est-ce pas, autrui, est un rapport qui n'émerge qu'entre évitement et rabattement. Donc je crois qu'il y a quelque chose là... que nous cherchons à éviter, c'est pour ça qu'on en parle peu, parce qu'on essaie de rabattre justement, ou d'éviter, la parole elle-même ne fait que ça, éviter et rabattre cet incommensurable qui nous dérange tant, mais qui je crois serait un fil à tirer pour donner à l'expérience eh bien son déploiement.
Mais ce que vous dites François-Julien du visage, est-ce que ça coïncide, je reprends le mot, avec ce que dit Lévinas quand il écrit « l'absolument autre ne fait pas nombre avec moi ».
Oui,
il y a une altérité radicale qui fait qu'en fait nous existons seuls. La communication est une sorte de rabattement de cet incommensurable.
Alors,
ou est-ce que c'est différent?
Que la communication soit un rabattement de l'incommensurable, oui. Elle sert à ça d'ailleurs, parce qu'elle nous rassure. Mais par rapport à la formule de Lévinas, je dirais justement ce qui me décale un peu de lui, c'est que c'est pas l'absolument autre, à mon sens, qui est en jeu, ni non plus l'infini. C'est parce qu'au fond, qu'est-ce que dit l'incommensurable? C'est qu'il y a du non-rapport dans le rapport. Mais l'incommensurable maintient le rapport. Seulement, il dit, dans ce rapport, il y a du non-rapport. Dans cette adéquation, il y a de l'inadéquation. C'est ça qui me paraît précieux. Parce que faire de l'autre, autrui, comme le filinat, de tout autre, avec lequel je serais absolument sans rapport, c'est difficile parce que ça crée d'abord une sorte de non-réciprocité entre l'autre et moi. Et puis, on sait bien que chez Lévinas, il y a derrière cet autre d'autrui, absolument ce rapport, c'est Dieu. C'est l'infini de Dieu. C'est pour ça que je me suis décalé et du thème du visage chez Lévinas, tout en reconnaissant la force de son développement, et j'ai davantage développé le thème du regard. Et d'autre part, le fait que ce qui me paraît important à penser, c'est pas le sans-rapport, mais c'est le rapport fêlé, c'est-à-dire le non-rapport dans le rapport.
Mais
et il me semble que c'est ça que nous vivons avec autrui.
François-Julien, là, vous comportez comme une sorte de nouveau mathématicien qui invente un entre-deux entre le rationnel et l'irrationnel. Des nombres qui seraient quelque part entre les nombres rationnels et les nombres irrationnels qui permettraient de faire une sorte de transition entre les deux.
Mais je crois qu'on ne peut faire que ça. C'est-à-dire, une fois qu'on a ressenti ce heurt de l'incommensurable, qui est de l'ordre du constat. On peut certes biaiser avec lui, éviter, rabattre, mais si on assume ce heurt, ce choc de l'incommensurable, comme les Grecs ont dû le faire dans les mathématiques, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On essaie de penser le rapport de nos rapports dans le rapport. C'est-à-dire qu'on essaie de penser comment, non pas ressouder les deux, mais comment penser ce qui... et cette fêlure du rapport, ce qui implique à mon sens de penser le saut. Sauter. Il y a un moment où il faut sauter, comme parce que la fêlure est infinie, donc il y a bien à sauter. Et par exemple, dans le rapport à l'autre, je pense qu'il y a un moment où il faut sauter. C'est-à-dire, non pas sauter enjamber la commensurable, mais sauter dans le vertige de ce non-rapport au sein même du rapport. Alors par rapport au problème du rapport à autrui, qui est quand même un problème essentiel de l'éthique, ou son point de départ, ce qui me paraît important, c'est de penser donc ce qu'il y a de nos rapports dans le rapport. Je pense que c'est ce que pense la rencontre. Dans la rencontre, justement, si c'est absolument ce rapport, il n'y a pas de rencontre. S'il n'y a que du rapport, c'est la relation. Donc de l'assimilation. Mais se tenir au point difficile, vertigineux, du non-rapport dans le rapport. Ce qui fait que, ça signifie quoi? Ça signifie que le rapport ne s'intègre pas complètement. Il y a de l'inintégrable. Et au fond, c'est ce qui me paraît essentiel dans ce que dit l'incommensurable parmi les nombres. Ça ne s'intègre pas totalement. Non pas il n'y a pas de rapport, non pas un autre rapport, mais une inintégrabilité. irréductible. Et je crois que c'est ce que nous vivons dans l'expérience, notamment en rapport à autrui.
Ou bien quand on lit, vous parlez de la lecture dans votre livre, qu'est-ce que ça veut dire lire? Et vous dites que quand on lit un grand auteur, eh bien lire implique un délire en deux mots. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Délire en deux mots, délire en un mot d'ailleurs. Ce qui est, et je crois que, alors moi j'ai une situation peut-être un peu simpliste, mais c'est vrai que quand je lis les auteurs, très vite je me dis, j'en vois une catégorie qui sont dans le commensurable. Et puis, ceux que je préfère lire, c'est ceux qui nous font faire un saut, justement. Et nous font découvrir de l'incommensurable. Bon. Je disais comme ça...
C'est-à-dire, on s'arrête de lire quand on tombe sur une phrase ou un mot qui nous...
Ah non, je crois qu'il est pris de vertige. Alors évidemment, ce vertige, on va tout de suite le rabattre. Donc, on va lire la phrase d'après, on va lire plus loin, pour rabattre, ramener la commune mesure vis-à-vis, et pour, disons... oblitérer, recouvrir ce qui a surgi d'incommune mesure. Mais je crois que justement, relire, donc quand on lit, c'est comme quand on rencontre quelqu'un. On va essayer de rabattre dans le commensurable, même si ce qu'on a lu fait surgir de l'incommensurable. Mais relire, je crois justement, permet de revenir sur cet incommensurable qu'on a enjambé, qu'on a trop facilement rabattu, pour le faire émerger dans sa force propre. Dans sa capacité de dérangement. Vous voyez, si je lis Le bateau ivre de Rimbaud, texte qui fait émerger de l'incommensurable, d'abord, qu'est-ce qu'on fait? On lit les notes, on va essayer de rabattre cet incommensurable parce qu'il est vertigineux.
De faire des commentaires.
Oui, de faire des commentaires, et parce qu'on veut rentrer dans la communication. Et puis, si je relis Le bateau ivre, et pourquoi je le relirais? C'est à cause de ça, justement. C'est parce que rôde en moi cette inquiétude de l'incommensurable rencontré auquel je me suis heurté, et que je vais progressivement lui faire sa place. Et donc, m'ouvrir à ce vertige qu'a, produit le poème. Alors, je distinguerai, moi, les auteurs qui nous font vivre ça et ceux qui ne font pas vivre. Alors, je dis, Gide reste dans l'incommensurable, Proust fait émerger de l'incommensurable.
Ou Kafka, que vous citez aussi.
Oui, Kafka, bah oui, c'est de l'incommensurable. Donc, voyez, je crois que ça, en même temps, c'est un bon critère, je dirais, de critique ou de lecture, que de se dire, au fond, est-ce que le livre que je lis me fait faire l'expérience de l'incommensurable ou pas? Alors, ce qui me paraît important, c'est que l'expérience de l'incommensurable, elle n'est pas dans notre monde. J'insiste là-dessus. L'incommensurable, il est de l'ordre des nombres, il est de ce monde. Mais dans ce monde, il fêle l'accord, le bord à bord, la contiguïté qui font monde.
Donc vous n'êtes pas platonicien, vous n'invoquez pas autre monde parallèle qui ferait jaillir dans nos vies des nombres, en l'occurrence, qui lui appartiendraient et qui ne seraient pas dans le nôtre.
Oui, ben j'essaie, si vous voulez, d'éviter le dépassement de l'expérience, donc, disons, la solution de la métaphysique, et de penser, non pas la métaphysique, mais ce que j'appelle le métaphysique. C'est-à-dire le minimum métaphysique, c'est-à-dire non pas la métaphysique dans son geste de dépassement, mais le fait qu'il y a, au sein même de l'expérience, de la fêlure, donc de l'infini qui s'ouvre. Et ce qui me paraît précieux dans cette pensée de l'incommensurable, c'est la fêlure d'infini. C'est pas un infini de l'ailleurs, de l'au-delà. Ça, c'est facile. C'est pas un infini du dépassement, c'est un infini du débordement. C'est que ce qui est bord à bord, eh ben, ne peut plus comme ça se toucher, et que cette fêlure, eh bien, fait émerger quelque chose qui est une possibilité de déploiement qu'il ne faudrait pas négliger, parce que c'est elle qui permet, ben oui, le déploiement de l'existence.
Mais est-ce que le rabattement dont vous parlez, François Julien, c'est-à-dire le fait de voir surgir l'incommensurable, de le sentir, mais aussitôt de le rabattre, ça n'est pas. Est-ce que c'est obligatoire d'abord ce rabattement? Et puis, si ça l'est, est-ce que ça n'est pas ça qui engendre la nostalgie?
Tout à fait. Alors, je crois que ce rabattement, c'est un rabattement qui est, instinctif, parce qu'on sent le danger, donc on s'en prémunit, et donc on cherche à recouvrir. Comme on fait les Grecs quand ils ont découvert les nombres incommensurables, on commence d'abord à essayer de voiler ça, de le cacher.
On fait comme s'ils étaient presque rationnels.
Oui, on essaie de l'intégrer. Mais justement, ce qui m'intéresse dans l'expérience, c'est que l'expérience, est-ce qu'on peut faire l'expérience de l'incommensurable? Dès lors que l'expérience se constitue, elle recommensurabilise. Je crois que c'est le propre de l'expérience, c'est d'intégrer. L'expérience intègre. Donc l'expérience, elle tend à commensurabiliser. Alors, cette expérience de l'incommensurable, elle est donc à la limite de l'expérience. Elle est dans cet amont que l'expérience va intégrer et donc va rabattre, et en même temps laisse quelque chose en amont qui est justement ce dont on aura la nostalgie, et ce qui sera donc cette, ce qui est par exemple qu'on va relire, n'est-ce pas ? Parce que, bien sûr, on a recouvert, mais en même temps, quelque chose est resté à titre de ce qu'on a rabattu et qui ne cesse ensuite de nous hanter. C'est pour ça que je crois que la métaphysique, néanmoins, si on prend la version platonicienne, cette sorte que qu'on aurait vu avant, notre âme aurait vu avant de s'intégrer dans le corps, et qui maintient cette idée d'idéalité au sein même de l'expérience, dit quelque chose de cela, à savoir que notre expérience, en tant qu'elle s'organise en expérience, elle intègre. Donc elle intègre dans une commune mesure. C'est le fait même de l'expérience. Et en même temps, si on est attentif à ce que contient l'expérience, eh bien on perçoit ce qu'elle a rabattu, ce qu'elle a intégré, mais qui était inintégrable, et donc on y revient, et on se rehausse, je dirais, à ce point de vertige, à partir duquel peut se déployer l'expérience dans toute sa dimension.
Mais dans un chapitre, vous montrez que c'est quand même très facile de vivre de l'incommensurable. Vous dites, je crois que vous connaissez bien la Bretagne, et vous dites, quand on va de Paris en Bretagne, on s'enfonce dans de l'incommensurable. Ma question c'est, est-ce que c'est vrai seulement pour la Bretagne, ou est-ce que c'est vrai pour de n'importe quel voyage en France, par exemple?
Bon, alors, je crois qu'il y a d'abord cette expérience qui est que l'incommensurable, c'est pas la différence. Quand je quitte Paris, en train, on passe de la ville à la campagne, des rues aux routes, c'est différent. Ce qu'apporte l'incommensurable, c'est qu'il y a quelque chose qui se fêle, et une fêlure qui ne se recouvre pas totalement. Une fêlure donc qui ne fait que ce n'est plus bord à bord totalement, et il me semble effectivement, quand on va en Bretagne, alors, où est cette fêlure? Je me pose la question sur la carte, enfin, ou dans mon souvenir. Après Le Mans, certes, mais est-ce que c'est près de Laval? Est-ce que c'est bon? Mais quelque chose qui bascule, et plutôt quelque chose qui n'est plus bord à bord. Alors, bien sûr, le recouvre, parce que les stations se suivent, les gares, bon, et. Mais je me demande si, justement, quelque chose qui. Parce qu'au fond, l'expérience de la commensurable est celle du vertige. Parce qu'il y a une sorte de fêlure d'infini. Fêlure définie, donc dont on ne se débarrassera pas, en fait. Or, on peut recouvrir, on peut éviter.
En fait, vous changez le monde sans quitter le monde.
Oui, c'est-à-dire que quelque chose se fait dans le monde sans que cela soit d'un autre monde. C'est pour ça que ça m'intéresse sur le plan métaphysique. Pour penser le métaphysique, c'est-à-dire le minimum métaphysique, par rapport à la métaphysique. Parce que la métaphysique, elle veut bien dans notre monde. Dans le lieu des idées, comme dirait Platon, topos ton aidon, elle veut bien dans là-bas, dans ailleurs. L'intérêt de l'incommensurable, c'est que c'est pas de l'ailleurs, c'est pas du là-bas, c'est pas un autre monde. C'est que l'expérience continue que nous avons du monde se fêle. Et se fêle infiniment, sans qu'on puisse réintégrer ce qui s'est fêlé. Alors je pense que le voyage peut donner cela. Parce que c'est ça voyager. Sinon voyager, si c'est uniquement dérouler la différence, pourquoi voyagerait-on? On ne voyage au fond, et quand on lit Chateaubriand, ou bien que Chateaubriand nous fait, chaque fois qu'il parle de la Bretagne, fait émerger cette incommensurable de la Bretagne. Ou, il y a d'autres, vous disiez par exemple, plus près de Paris, Nerval, le Valois de Nerval, fait émerger de l'incommensurable. Pourtant, c'est tout près de Paris. Mais c'est pas seulement que ce soit ailleurs, c'est pas dans l'autre monde, c'est simplement qu'une continuité à laquelle on se fie, soudain, se fêle. Et c'est cela qui me paraît, disons, pouvoir être à réfléchir pour déployer l'expérience dans son maximum, disons, dans tout ce qu'elle peut donner. Dans tout ce qu'elle peut donner. Donc, encore une fois, mon souci, c'est de ne pas chercher une autre expérience, pas chercher à dépasser l'expérience, même pas non plus la rabattre, pas non plus l'éviter. Donc, essayer de la déployer et donc d'accepter que l'expérience, non pas se dépasse, mais se déborde. C'est-à-dire sorte de.
Et à ce propos, j'ai précisé tout à l'heure, François Julien, que vous êtes philosophe, mais aussi sinologue, et vous parlez de. C'est les traits chinois qui, je crois, se retiraient dans les montagnes. Et vous dites qu'un jour, un empereur a insisté pour qu'un certain Zhong Bing, qui était un grand peintre, accepte une charge au palais. Et celui-ci se contenta de répondre pour décliner l'offre. J'ai hanté les montagnes et bu aux rivières des vallons durant plus de 30 ans. Et ça suffit à dire non.
Ça suffit à dire non parce que, oui, et l'empereur qui souvent n'est pas très tolérant en Chine, Là, il se tait, il admet. Parce qu'au fond, la phrase de Dongbing, oui, qui est un penseur génial, parce que c'est à lui qu'on doit le premier grand texte au monde sur le paysage. Non seulement il était un grand peintre des paysages, mais il était le premier penseur du paysage. Et ce Dongbing, au fond, a une réponse qui fait émerger de l'incommensurable. Parce que le monde des montagnes et des eaux, c'est bien notre monde. C'est bien, c'est pas un ailleurs. Simplement, ça ne s'intègre pas à ce monde. Vous voyez, ce qui me paraît important, c'est ce qui ne s'intègre pas à ce monde, mais qui n'est pas dans notre monde. Et c'est ce qui me paraît important à penser, c'est même là que la pensée, je crois, est vraiment conduite à penser, c'est de penser donc ce qui n'est pas de ce monde, mais qui n'est pas dans notre monde.
François, je viendrai vous faire, vous lire une phrase de Paul Valéry, puisqu'on est en période où la politique se fait beaucoup entendre. Voilà ce que Paul Valéry écrit à propos du pouvoir politique, et il utilise le mot incommensurable dans cette phrase. Je voudrais savoir si le sens qu'il lui donne correspond à votre analyse. Il écrit « Il n'est rien qui me surprenne et me scandalise comme de voir des hommes désirer et rechercher furieusement le pouvoir quand on ne devrait le prendre qu'avec terreur et comme un fardeau incommensurable aux forces humaines.
» Ici, tout à fait. Incommensurable, c'est-à-dire sans commune mesure avec les forces humaines. Donc il y a effectivement, je pense, une fêlure infinie entre l'exercice des rapports de force, tel qu'on le fait couramment, et puis la prise du pouvoir, que je crois certains, notamment certains présidents qui viennent d'être élus, ont subi, comme une sorte de coup qui lui est retombé dessus, quelque chose à quoi ils se heurtent. Ils ont voulu avoir le pouvoir, et le jour où finalement ils l'ont, à ce moment-là, à cet instant-là, je crois qu'il y a une fêlure d'infini qu'ils vivent, et que souvent ils ont décrite, n'est-ce pas, qui est justement que c'est sans commune mesure avec ce qu'on gère du pouvoir, ce qu'on en désire, ce qu'on en attend, soudain quand ça tombe. Donc je crois qu'effectivement, c'est juste. C'est juste parce que désirer le pouvoir, tout faire pour l'avoir, et puis soudain recevoir la charge de l'assumer, je pense qu'effectivement c'est plus bord à bord. Qu'il y a donc... Et peut-être qu'un président de la République met 5 ans ou 7 ans à essayer d'intégrer cet inintégrable. C'est ce qui fait qu'au fond, le soir de l'élection, c'est ça qui tombe. C'est que, au fond, ça ne changera pas grand-chose dans la vie des citoyens. Mais ce qui nous passionne peut-être, qui fait vertige dans l'affaire des élections, alors qu'en gros, la politique ne changera pas beaucoup, hein, ou même très peu, c'est qu'il y a effectivement dans la solitude de celui qui reçoit le pouvoir, comme on dit suprême, la majestateur suprême, quelque chose qui le met en... qui fait que à partir de l'instant présent, ce n'est plus bord à bord avec la vie précédente, et qu'il y a donc quelque chose qui est sans commune mesure avec la gestion commune du pouvoir.
Je vais vous faire un aveu, quand j'étais en terminale, François Julien, j'ai dû écrire une dissertation sur la phrase de Protagoras, « L'homme est la mesure de toute chose ». Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort?
C'est une grande phrase. Vous savez, Protagoras a écrit 3 phrases. Enfin, on a écrit beaucoup plus, mais on en a gardé 3. Mais qui sont les 3 phrases fondamentales? Celle-là, « L'homme est la mesure de toute chose, des choses qui sont en tant qu'elles sont, et des choses qui ne sont pas en tant qu'elles ne sont pas ». Ça signifie que l'homme, alors, la mesure, le maître en grec, metron. L'homme est la mesure de toutes choses, des choses qui sont en tant qu'elles sont, des choses qui ne sont pas en tant qu'elles ne sont pas. C'est une phrase, disons, étonnante, scandaleuse. D'ailleurs, le texte dont discours terrassant, c'est là le livre qu'on attribue à Protagoras, n'est-ce pas ? Des discours terrassants. Parce que c'est plus les dieux, c'est plus le monde, c'est l'homme. C'est l'homme qui est la mesure de tous les temps, de l'être à la mesure de l'homme. Donc c'est une phrase qui est d'une... C'est la phrase fondatrice de l'humanisme. Si on dit, prend l'humanisme au sens fort, non pas au sens bêta dans lequel le terme traîne, mais au sens fort, c'est que là, il fonde l'être sur l'homme. Une phrase prodigieuse. Platon, vous savez, l'a critiqué en disant, mais non, c'est les dieux. Et je crois que c'est... Là, il y a un vrai débat de la philosophie que les Grecs ont organisé et qui fait apparaître que... Peut-être que l'homme est la mesure de toute chose, mais la mesure de l'homme est fêlée. C'est ça qui me paraît important. C'est que l'opposition entre Protagoras et Platon, le Platon vieillissant, le Platon des lois, de dire mais non, c'est pas l'homme qui a besoin de toutes choses, c'est les dieux, donc de corriger Protagoras, au fond, il faut aller plus loin en disant oui, c'est l'homme, la mesure de toutes choses, c'est pas dans le monde, c'est pas Dieu, c'est pas. Mais la mesure de l'homme, mesure de toutes choses, est une mesure fêlée. Comme a dit Baudelaire, moi, mon âme est fêlée. La cloche fêlée. Donc, et c'est ça qui fait que la cloche retentit d'une façon étrange, intéressante, c'est qu'elle est fêlée.
Avant que la cloche retentisse dans l'émission, j'ai signalé tout à l'heure, François Julien, que vous publiez deux livres en même temps. Le premier s'appelle L'incommensurable, on vient d'en parler. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais il y en a un second qui s'intitule Moïse ou la Chine. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux, ou est-ce que l'un est la suite de l'autre? Est-ce qu'ils sont indépendants?
Non, ils ont marché ensemble. Parce qu'au fond, c'est la même question. Dieu est l'incommensurable. Simplement, mon idée, pour dire la chose très vite, c'est que si on pense le concept d'incommensurable dans ce qu'il ouvre de possibilités, eh bien, on contient ce qu'il y a de plus intéressant dans l'idée de Dieu, et on n'a plus besoin de la figure de Dieu, ou de son récit, ou de son mythos. Voilà ma thèse. C'est pas toi que les deux livres devaient paraître ensemble. L'un est plus gros que l'autre, celui en rapport sous ce titre.
Le second.
Moïse ou la Chine, oui, parce que la phrase n'est pas de moi, elle est de Pascal. C'est une phrase que je trouve infiniment puissante de Pascal quand il écrit dans les pensées.
Mais qu'est-ce qu'elle veut dire?
Lequel est le plus croyable des deux, Moïse ou la Chine? Je trouve la phrase est magnifique. Lequel est le plus croyable des deux, Moïse ou la Chine? Donc elle ouvre une sorte d'alternative entre Moïse, on voit bien ce qu'il représente comme étant la tradition religieuse de l'Occident, le monothéisme, la loi, les commandements, tout ça, la terre promise. Et puis la Chine, non pas Lao Tzu, Confucius, mais la Chine comme espace de pensée dont Pascal ne sait quasiment rien, si ce n'est qu'il voit bien la force d'objection qu'il constitue par rapport à la pensée européenne. Il ne sait quasiment rien de cela, de ce qu'est la Chine. Simplement, ce qu'on a appris à l'époque, à savoir qu'il y a des chronologies en Chine aussi bien faites que nos chronologies en Europe, mais qui n'ont ni Adam, ni Noé, ni tout ça.
Donc si je pose la question Moïse ou la Chine, et si je réponds Moïse, qu'est-ce que ça implique? Et si je réponds la Chine, qu'est-ce que ça implique?
Ben, ça fait mettre en question le terme de croire. Lequel est le plus croyable des deux? Si je donne crédit à Moïse, c'est que je prends croire dans son sens religieux, je dirais hyperbolique, n'est-ce pas? Je crois, sens absolu, je crois. Pour moi, il ne s'agit pas de choisir l'un ou l'autre. Il s'agit de penser ce vis-à-vis. Alors, surtout, je précise, parce que je le redis chaque fois, mais ça ne s'entend jamais, je ne compare pas. Je ne compare pas la pensée chinoise à la pensée européenne. J'essaie d'organiser un vis-à-vis réflexif entre une tradition, l'européenne, dont la grande affaire c'est Dieu, qui nécessite de travailler autour de Dieu, pour ou contre Dieu, et puis une autre tradition de pensée, dont je ne dis pas qu'elle est autre, je dis qu'elle est ailleurs. La chinoise, abordée dans les textes chinois, qui a entrevu l'idée de Dieu, mais que ça n'a pas vraiment intéressé. Donc, il a entrevu l'idée de Dieu dans la figure du Seigneur d'en haut, le Shangdi, et qui n'a jamais fait de procès à Dieu, mais par exemple ne s'est jamais posé la question de est-ce que Dieu existe. Je fais allusion au mauvais livre qui circule actuellement sur l'existence de Dieu prouvée par les scientifiques. Eh bien, si on n'a pas le verbe être en chinois, au sens de absolu, comme dit Aristote, être ou ne pas être, to be ou not to be, la question de est-ce que Dieu existe ne se pose pas. Donc, vous voyez, quelle question qui a tellement travaillé la pensée européenne jusqu'à la modernité, et qui se trouve mise de côté, évacuée, si seulement dans la langue dans laquelle je pense, le chinois, eh bien, je ne dis pas le verbe être au sens d'existence, être ou ne pas être, mais je dis seulement la prédication, être ici ou être fatigué.
Le sous-titre de votre livre, je parle du second, la Moïse ou la Chine, c'est quand ne se déploie pas l'idée de Dieu.
Oui, donc ça signifie
mais l'idée a germé quand même.
La tradition germe, elle a entrevu cette possibilité, disons, il y a 4 millénaires à peu près, sous la figure du Seigneur d'en haut, parce que là, en Chine comme ailleurs, il y a des divinités, des rivières, des éléments naturels, et puis une figure tutélaire qui s'organise, Seigneur d'en haut, comme un souverain. Simplement, cette notion en Chine va se trouver progressivement, non pas mise de côté vraiment, mais progressivement marginalisée, au profit d'une autre, qui est celle du ciel. Et qui est, le ciel va beaucoup progressivement signifier la régulation du monde. Donc, et cette harmonie qui ne cesse de se reconduire au niveau de la nature, et que le fils du ciel, c'est-à-dire l'empereur, doit, disons, intégrer dans le monde humain. Donc, si vous voulez, ce qui me paraît intéressant, c'est que, et c'est d'ailleurs ce que les missionnaires ont découvert quand ils sont allés en Chine, c'est que les Chinois ne sont pas contre l'idée de Dieu, ils ne sont pas non plus fascinés par elle. Ils trouvent ça pas très intéressant, pas très important. Donc au fond, et la Chine, et la langue chinoise d'abord, a tissé une cohérence pour rendre compte du monde de l'expérience qui ne passait pas par, disons, cette alternative, disons, radicale pour nous, Dieu ou non-Dieu, y croire ou pas. Alors, je trouve ça intéressant à penser aujourd'hui.
Mais c'est une question de transcendance ?
Parce que,
ciel dont vous parlez chez les Chinois, il fait partie du monde.
Oui, et en même temps, la transcendance chinoise, celle que dit le terme de ciel, ce n'est pas une transcendance par extériorité, comme le Dieu que découvre Job, malheureux, c'est une transcendance par absolutisation et totalisation de l'immanence. Donc ce n'est pas une transcendance par extériorité, mais c'est le plein régime de l'immanence. C'est pour ça que le plein régime de la nature, c'est pour ça que ciel, finalement, en chinois, on traduit souvent ciel-nature. Hein. C'est Kailu Sivu Natura, non pas Deu Sivu Natura, comme dirait Spinoza. C'est donc, au fond, le ciel, c'est la totalisation et l'absolutisation du plein régime de la nature. Donc c'est transcendant par rapport à moi, mais ce n'est pas une transcendance en soi d'extériorité, comme l'a été Dieu dans la pensée européenne.
Il y a quelques semaines, je recevais Maya Rouchkova pour parler de la traduction. Est-ce que la traduction est un rabattement ? C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'indicible qui se dit, en tout cas d'intraduisible qui se dit dans une langue, et le fait de tenter de le traduire rabat sur la langue dans laquelle on traduit.
C'est une belle question. Alors je hurle pour dire non. Je suis contre l'idée que le traducteur soit un traître, que la traduction soit une trahison. Je pense que la traduction, c'est justement ce vertige où on est toujours entre l'évitement et le rabattement, mais on doit lui résister, comme on doit y résister dans l'expérience. Et donc, un bon traducteur, c'est quelqu'un qui à la fois cherche des équivalences qui rabattent, et en même temps résiste à ces équivalences, et donc fait entendre ce qui dissonne, ce qui, disons, ne se laisse pas soumettre à ces équivalences. Donc je crois que la traduction, justement, c'est une période vertigineuse, parce qu'on est entre des langues, et où on est tenté constamment de rabattre d'une langue dans l'autre, mais on doit résister à ce rabattement. Donc, chercher bien sûr des équivalences pour accorder, pour mettre bord à bord, et en même temps percevoir ce qui
distingue.
Oui, ne se laisse pas, disons, résorber dans ce bord à bord et qui le fait entendre dans sa traduction.
Et même dans une langue donnée, on ne peut pas dire que deux mots soient strictement synonymes.
Non, comme entre plaisir et jouissance. Et je pense que rien n'est pire que les synonymes, parce que les synonymes, justement, mettent bord à bord, proposent comme équivalent ce qui, si on regarde de plus près, eh bien, laisse voir une fissure infinie, comme entre différé et reporté, je cite souvent les vers de Racine, entre partir et quitter.
Ou se hâter et être pressé.
Oui, mais simplement le vers de Racine, le début de Phèdre, n'est-ce pas ? Quand il dit « je pars, chère Théramène », et quitte le séjour de l'aimable Trézène. Le « je pars », si vous voulez, il est expansif, il est conquérant, « je pars », »,« je pars », c'est toujours sonore, c'est toujours un mot qui débute une aventure. Mais « je quitte », comme quitter est toujours à regret, quitter est toujours, laisse toujours nostalgique. Donc, partir et quitter, c'est synonyme, bien sûr. Et en même temps, il y a une fissure qui, justement, est porteuse de sens. Et le beau vers de Racine, quand il dit « je pars, chère Théramène », puis je quitte le séjour de l'aimable Trézène, fait bien entendre eh bien, cette fissure qui est porteuse de sens, donc qui déploie. Et il faut déployer la langue comme il faut déployer l'existence, non pas dépasser, non pas rêver d'une autre langue, non pas rêver d'un autre monde, mais déployer l'expérience sans la rabattre.
François Julien, merci d'être venu à l'émission. Il y a mon comparse Olivier Garcia a trouvé une anagramme qui crée un lien entre vos deux livres. Je vous la livre. L'idée d'incommensurabilité à avoir avec le déisme indicible mourant.
C'est beau.
Je vous laisse réfléchir là-dessus. Merci d'être venu. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette question fascinante. Je recommande la lecture de vos deux livres, L'incommensurable et Moïse ou la Chine. C'était Science en question par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Ryan Berkey et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.